Bonsoir à tous, on est vraiment ravis d'être avec vous ce soir pour une nouvelle édition dont joue la prolongation. Ce soir, avec moi, un plateau de qualité comme d'habitude. On espère qu'il sera ce soir plus impliqué dans l'émission que son équipe préférée hier. Je reçois autour de moi Monsieur Henri Daniel. Bonsoir Henri. Ah, pardon, attends.
Bonsoir à tous. Mais pas la barre très haut. Hein.
Non, c'est vrai, ça n'a pas été brillant, mais on va en parler, on va en parler.
Ça tousse dans le studio.
Il n'est jamais froid, ni jamais trop chaud, mais à l'image de l'entraîneur intérimaire actuel et peut-être à l'image du futur entraîneur, on parle de Sampaoli du côté de l'OM, on en parlera aussi avec lui. Bonsoir Blaise van der Linden.
Bonsoir à tous, et je pense que l'Olympique de Marseille est la seule équipe à ne pas avoir pris de points, enfin à ne pas avoir gagné au stade de la Beaujoire à Nantes.
Donc... Nouvel exploit des Marseillais.
À jamais les premiers.
Hein. À jamais les premiers. Enfin, il vient ici en leader, tranquille. Il a fait une belle première manche en Ligue Europa la semaine dernière. Très belle première manche, on en parlera. Et le plus dur reste à faire, on va dire, ce jeudi pour le FC Bruges qui affronte le Dynamo Kiev. Et qui d'ailleurs, on remercie particulièrement Didier d'être ce soir avec nous, puisque ce soir, je vais y arriver. Ce soir, le club Bruges joue à 20h45. Bonsoir Didier.
Bonsoir Samuel, bonsoir Blaise, bonsoir Henri.
On espère que tu nous en veux pas de t'avoir réquisitionné ce soir.
Au pire des cas, meilleur des cas, je regarderai la deuxième mi-temps.
Voilà.
Et je puis regarderai le score pour voir si ça vaut la peine que je vais.
Oui, et puis bon, en tout cas, au niveau de l'enjeu, on est un peu...
Ah, au pire, on perd un demi-point contre un... Aujourd'hui, même si on perd chez nous, chez eux. C'est vrai. on aura perdu un demi-point contre notre principal adversaire, et surtout les autres, ce sera coup nul. On y reviendra, j'imagine.
On y reviendra ce soir au programme de la Jupiler Pro League, bien sûr. On va faire également un point sur les Coupes d'Europe, puisqu'on a joué les matchs allés de la moitié des huitièmes de finale de Ligue des Champions la semaine prochaine. On a joué les matchs allés de Ligue Europa également la semaine dernière. Et on jouera encore cette semaine en Ligue des Champions, en Ligue Europa. On se posera la question également de savoir si l'Euro 2020 peut être disputé en Israël. C'est ce qui est sorti la semaine dernière. Israël a proposé, puis ça a été confirmé par l'UEFA, d'organiser, si la situation sanitaire reste aussi compliquée en Europe, a proposé d'organiser l'Euro sur son territoire. On va en discuter.
L'Angleterre aussi, d'ailleurs. S'est mis sur les rangs.
Oui. C'est vrai qu'ils avancent vite.
Puis ils sont surtout plus dans l'Europe.
Ils sont plus dans l'Europe. Est-ce que c'est lié? On ne sait pas. On parlera également justement de Première Ligue d'Angleterre. On parlera de la Ligue 1. La Ligue 1 dont on avait dit depuis le début de la saison, c'est un championnat qui n'a aucun intérêt puisque le PSG gagne toujours. Et bien le PSG fait mentir tout le monde et notamment les gens autour de cette table. Le PSG est mal embarqué.
À leur dépend.
Oui, ils s'y sont mis tout seuls. Et puis on parlera aussi un peu beaucoup de King Romelu, 5 derbys, 5 buts contre l'AC Milan, et cette semaine encore une victoire dans le derby de la Madonnina.
Une victoire plus que probante.
Hein. Absolument. Une victoire plus que probante. On démarre. Avant de démarrer, je vous mets un petit son.
Oui. Sunday Bloody Sunday.
YouTube. Sunday Bloody Sunday. Alors déjà, bon, j'aime bien cette chanson, mais... Ça a été un Sunday Bloody Sunday pour les gros du championnat hier, puisque Genk, Anderlecht, le Standard ont perdu. L'Antwerp, qui était deuxième, a sauvé l'honneur des grands clubs, si je puis dire, en marquant un point face à domicile contre...
Ostende.
Ostende, pardon, contre Ostende.
Non, je pense pas, je sais plus.
Non,
puisque Ostende est remonté à la...
Zult de Waregem. Non, ça c'était contre...
Allez, un petit quiz, Henri.
Ah, on est bon, contre...
Mon Dieu, je vais y arriver. On va vous dire ça.
Oui.
Et on va commencer.
Ah, on est très fort. Hein.
On va commencer. Les spécialistes, on nous appelle.
Saint-Tron.
Contre Saint-Tron, c'est pour ça que ça paraît si fou. Contre les citrons. On démarre, je vous propose qu'on démarre tout de suite parce que les absents ont toujours tort. Par Zult Waregem contre le Standard. Zult Waregem l'a emporté 3-2. Une nouvelle défaite en déplacement des Standardmen sur la pelouse de l'équipe la plus en forme du moment. C'était pas un match inintéressant. À la différence d'un match d'une autre grosse équipe du championnat, dans celui-là, il y avait des choses à voir.
Déjà les buts.
À commencer par les buts, 5 buts. Une belle ouverture du score, même une superbe ouverture du score de João Klaus, qui a mis une belle patate à la suite d'un très beau mouvement où il y avait eu un petit pont sur le côté, la balle lui est arrivée. Et on a pu voir, si on en doutait, que c'était un attaquant adroit.
Ouais, ils ont
puissant,
fait une belle trouvaille sur ce coup. On doutait un peu de son quand il est arrivé au vu de son pédigré, mais ils ont l'air d'avoir trouvé un attaquant qui peut leur marquer des buts enfin.
Ouais.
Je sais pas si vous avez entendu le commentaire au moment du but.
Oui,
ouais,
la frappe
c'était plus allemande que brésilienne.
Effectivement, j'ai l'impression qu'on a tous remarqué ce trait chez l'ami João Klaus. Peu de temps après, égalisation de Jean-Luc Dompé, dit Rignon. Dans Pérignon. Merci.
Samuel. C'est contact. C'est pétillant, comme
sur un coup franc direct, je me suis
superbe.
Même. Très beau coup franc direct. Je me suis posé la question, j'ai jamais joué vraiment gardien de but, mais le ballon, alors je suis peut-être dans le détail du détail, le ballon était placé dans une zone de soleil, d'ensoleillement, et il est passé dans une zone d'ombre. Au moment où il a frappé, c'est-à-dire que...
Ça dépend de l'angle du gardien.
En tout cas, je pense que le ballon a changé de... Il est passé de la lumière à l'ombre. Je me suis demandé si ça avait pu, l'espace d'un instant même, déconcentrer le gardien. Est-ce qu'il a pu perdre le ballon des yeux? Parce qu'il avait bien placé son mur. Mais il faut dire que le coup franc était super.
Ouais, c'est ça. Il a peut-être perdu le ballon des yeux, mais je pense que même s'il n'avait pas perdu des yeux, c'était super dur d'aller le chercher parce qu'il est, quand même bien proche de la lucarne, ce coup franc. Donc,
Mais quand t'es gardien, tu dois partir... au moment de la frappe, voire un peu avant. Donc c'est pas...
Il
doit déjà être parti. S'il attend de voir que le ballon soit près de lui, dans sa zone, c'est trop tard déjà.
En même temps, j'espère que c'est pas un souci l'ensoleillement pour les ballons de foot, parce que sinon les tennismen ont du souci à se faire. Ils prendront plus jamais
le service. Donc on était à un partout, c'est le score à la mi-temps, mais le Standard aurait dû... certains diront mener 2-1 avant la mi-temps. Il y a eu les occasions, il y a eu Lestienne qui a mis une frappe sur la barre.
Comment il fait pour rater ça, quoi? Ouais, moi je comprends pas.
Il est aussi maître, hein,
carrément. C'est presque plus dur de la rater que de la mettre dedans, quoi.
Il fait un beau,
les mauvaises
très beau
langues,
crochet.
C'est parce qu'il vient de Bruges.
Et il l'a mise au-dessus. Et il y a eu une situation où il y aurait peut-être, enfin, le VAR n'ayant rien dit, l'arbitre n'ayant pas sifflé, on passera dessus, mais peut-être un pénalty sur Klaus qui se fait étirer, pousser et donner un petit coup de pied. Mais bon, l'arbitre ne siffle pas et puis ça n'empêchera pas au retour de la mi-temps le Standard de prendre l'avantage sur un but de Bastien avec un assist de Klaus et un pré-assist de Carcella dans un numéro assez acrobatique puisque c'était vraiment complètement sur la ligne de touche. On s'est demandé même à un moment si... En tout cas, lui était dehors, mais le ballon était encore dans l'aire de jeu.
C'est pour ça que le Standard a besoin de lui dans certains moments, et c'est ce genre de passe-là, parce que je pense qu'il n'y a que lui qui est capable de le faire dans l'équipe, si ce n'est dans le championnat.
Oui. Il faut le voir surtout.
Oui, c'est ça, ouais.
Ouais, une belle et puis une belle il a bien laissé le ballon en jeu et ensuite Klaus a fait une belle passe
parce que on a loué ses instincts de buteur il y a quelques minutes, mais il est impliqué quasi dans toutes les grosses actions du Standard, et tout, que ce soit à la passe ou à la frappe, donc c'est aussi un bon passeur, c'est pas juste un gars qui va bourriner de...
Ouais, c'est vrai que c'est, quand tu disais que c'était une bonne trouvaille, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est une on s'y attendait pas nécessairement. On regardait ça d'un œil un peu circonspect.
Tout à fait, parce que c'est vrai qu'il est, il a un petit peu un gabarit hors norme pour la place qu'il occupe.
Puis il avait un nom complètement inconnu. Hein.
Ouais.
Aussi.
Et des clubs inconnus aussi.
Regarde, je vous aviez
toi,
lu.
Toi, tu as un nom inconnu, mais tu es quand même un.
Non, mais j'avais lu l'interview d'Igor de Camargo, et puis c'était venu petit à petit. Le journaliste lui demandait, et alors João Klaus, un nouveau Brésilien, un compatriote dans le championnat, et puis du bout des lèvres, il avait dit. Pour tout vous dire, je connais pas. J'ai entendu parler.
En même temps, des Brésiliens, il y en a
à l'appel, mais bon, voilà, il faut pas se louper. Et le Standard a visiblement bien trouvé, tant mieux pour eux. Puis, mais malheureusement, le Standard, s'ils ont été efficaces offensivement, ont été très, très, très perméables. Égalisation 3 minutes après le but de Bastien par Gianni Bruno, avec un très beau travail sur le côté de Dompé, qui passe deux joueurs, Siké, et puis surtout Dussen. Voilà. Dussen qui n'intervient pas.
Hors du rectangle pourtant.
Voilà, c'est même pointé du doigt par Mbaye en conférence de presse après. Il a dit mais il faut intervenir. Et ça a rappelé exactement ce qu'il avait dit sur le débordement il y a quelques semaines quand Raskin avait pas fait la faute. Il a dit il y a des moments où il faut faire la faute. Et c'est vrai que là.
Contre
Bruges.
On a vraiment l'impression que c'est une équipe d'enfants, en fait, qu'ils n'ont pas appris, parce que ça s'apprend au plus bas niveau de faire une intervention comme celle qu'il aurait dû faire.
Siké joue bien, mais pas Dussen.
C'est
quoi.
Ça, voilà.
Dans le direct, je me souviens que les commentateurs disaient qu'il pense que Dussen croyait, lui, qu'il était dans le rectangle et que donc c'était péno, peut-être encore pire. Et donc, voilà, mais il était clairement.
Je ne sais pas ce qui est pire. Je ne sais pas ce qui est pire.
On ne cautionne pas. Mais enfin, il aurait dû le faire.
Là, ils appellent ça une faute professionnelle, dans le sens.
Non, mais au moins s'engager. Après, il n'est même pas à l'abri de faire un beau tacle. Mais au moins, il challenge le ballon. Mais je ne sais pas si ce n'est pas plus grave qu'il ait pensé qu'il était dans la surface alors qu'il était 1m50 en dehors.
Tout à fait.
Et ça ne s'arrête pas là, puisque 3 minutes plus tard, Bruno va marquer sur une action.
Alors là,
avec le tampon standard, hein, en tout cas.
Tampon standard et surtout école de contre-attaque. Hein, parce que c'est un modèle du genre. C'est, je pense que le goal vient sur après un corner du Standard.
C'est un corner cette fois. Mais enfin, la balle est en possession du Standard dans les 30
vitesse,
mètres.
C'est une reconversion, mais juste incroyable. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que le Bruno, lui, il se tape un sprint de quasiment 75 mètres parce qu'ils étaient tous derrière, même si lui est attaquant, mais il n'est pas au rond central. Donc, il a vraiment accompagné. Je ne sais pas qui c'est qui lui fait le.
Govea.
C'est Govea qui lui fait la passe, qui est millimétrée.
Parfait.
Qui est
juste, ouais. Mais l'appel est parfait aussi parce qu'il prend une diagonale magnifique.
Tout à fait. Et il reçoit la balle à l'aveugle. Ouais. Parce que tu vois qu'il la cherche.
Oui, c'est vrai. Ça m'a aussi marqué.
Dans sa course.
Qu'il la cherche et vraiment, elle arrive dans ses pieds.
Ouais, non, c'est vraiment une pure merveille.
Et effectivement, école de contre-attaque, et j'ai l'impression que c'est en tout cas l'équipe contre laquelle le Standard, on peut faire ça, puisque comme vous l'avez souligné, c'est pas la première fois. Tu lui parlais d'un corner, c'était pas le cas cette fois, mais tu t'es trompé parce qu'ils ont pris 2 buts ou 3 buts cette année sur un corner
offensif.
Ouais. C'est.
À noter aussi la finition de Bruno, parce qu'en dehors de son sprint, il faut encore avoir la lucidité.
Ouais.
Parce
surtout,
qu'il est excentré, il arrive à la droite du gardien et il arrive à la croiser, mais parfaitement à fond.
Ouais.
Enfin, c'est juste c'est classe européenne, quoi, clairement.
Alors, qu'est-ce qu'il a manqué au Standard, on va pas mettre, on va
deux
pas.
Buts.
non mais je pense, enfin, de l'expérience principalement.
Voilà, j'allais dire la même chose.
Parce que ils se font planter un couteau dans le dos, quoi. Enfin, je veux dire pas péjorativement, mais enfin c'est deux buts qui sont largement évitables et au final ils se retrouvent avec perdre 3 points qui étaient super importants pour eux et enfin vraiment, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de révolte dans cette équipe. Il y a quelques belles actions de jeu, mais dès qu'ils perdent le ballon, il n'y a pas de vice, il n'y a pas d'engagement, je trouve. C'est
pire que ça, c'est ils mènent 2 fois et ils gardent le score 3 minutes à chaque fois, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc il y a aucune maîtrise. C'est même pas de l'engagement, c'est de la maîtrise. Là, tu as le ballon, tu n'as même pas. C'est pas une question d'engagement.
Noter aussi un manque d'agressivité défense, enfin l'image du Sen qui va même pas au duel.
Il a quand même pris une jaune. Hein.
Ouais.
Parce qu'à mon avis, Mbaye connaît par cœur Dury. Mm-hmm. Au niveau tactique, il devait être OK. Je pense que c'est vraiment une question d'engagement et d'application.
Du riz au lait, quoi. Donc.
Et voilà, voilà, du riz au lait.
Du riz au lait. Mais... Ce soir, on est dans...
Ouais, c'est... Pas avoir.
Si y a bien un entraîneur que Mbaye connaît bien, c'était
Franck Durie.
Oui. Tu peux pas le surprendre, mais... Et après, il faut l'appliquer, quoi.
C'est vrai.
Ce que j'ai noté aussi, c'est que le Standard s'est montré... Alors, ils ont quand même inscrit 2 buts, d'accord, mais... Ils n'ont pas tellement insisté. Il faut pas oublier qu'en face, tu as quand même Papy de Siacht, hein,
ouais.
Et 40 ans.
Et sur le but, il est couvre. Complètement à la ramasse. Ouais.
Ben oui. Et quand il aurait fallu peut-être insister par là. Quand tu as des feux follets dans ton équipe, ouais. C'est là qu'il faut pousser sur le champignon, quoi.
Ça a dû être dit. Je pense que ça, ils n'ont rien appliqué. Enfin.
Oui. Ce qui est dommage, c'est vraiment cette inconstance, parce qu'il y a eu du bon. Moi, j'ai trouvé du très très moyen, hein, du même mauvais pour ne pas lui jeter la pierre, mais je vais quand même... Dussen, ouais. Il revenait de blessure, mais bon, il a vraiment pas été bon. Sur le 2-2, il est très très passif. Très intéressant, là, on en a parlé, Joao Klaus, qui a...
Ouais. C'est le seul, je pense, qui a joué à son niveau, à son engagement, en tout cas. On en parle souvent avec Steve, c'est l'engagement standard.
Ouais,
ce qu'on n'a pas vu, à part lui.
Ouais. Ça doit être super frustrant, en fait, pour les supporters du Standard, parce que j'ai en tête une action où ils font un jeu en triangle qui part du milieu de terrain, ils arrivent à la surface, et quand tu vois ça, tu te dis, waouh, c'est super, ils arrivent à faire ça, il y a peu d'équipes qui arrivent à le faire dans le championnat. Et en fait, non, il le capitalise pas du tout, ce genre de belles actions. Et ça doit être super frustrant, mais même pour les joueurs, en fait, de se prendre une contre-attaque comme ça, alors que toi, t'as la balle devant le but adverse,
ouais.
Et que tu te fais foudroyer en 2 minutes, quoi. Ça doit faire super mal. Et je pense que dans leur tête, ça va être compliqué de se remettre de ça.
Est-ce que ça peut devenir une sorte de traumatisme de prendre encore une fois un but sur un contre, encore une fois
Ils encaissaient à la 60e minute, il reste une demi-heure.
Oui, ils peuvent encore revenir.
C'est étonnant. Le manque de réaction était étonnant.
Mm-hmm. Oui, il y a un manque de solidité générale, moi j'ai trouvé, hein, chez Standard.
Franchement, mais... je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais ce qui m'a vraiment interpellé en voyant leur non-réaction, j'ai envie de dire, c'est qu'ils avaient un avantage considérable dans la course au top 4, c'est qu'ils connaissaient le résultat des principaux mm-hmm. adversaires, dont Anderlecht, qui est quand même l'adversaire...
historique.
Excellence, historique, tout à fait, c'est le mot que je cherchais.
Arch nemesis, comme on dit.
Quand tu sais que tu peux faire la bonne opération, que ton adversaire a perdu, que toi, tu as quand même une bonne équipe, parce que ça tourne bon an, mal an, plus ou moins bien au Standard, je veux dire, ils ont retrouvé un fond de jeu quand même, je pense. Mm-hmm.
Et ils sont contre un adversaire direct, hein.
Ben absolument.
Sur le terrain.
Et donc, à partir de là,
mais non, qui n'est pas.
Courtrai, c'était pas un adversaire direct. Ils sont revenus maintenant à 3
non,
points.
Non, Zult.
Zult, pardon, tu as raison. Autant pour
mais moi. Mais toutes les équipes du championnat sont des adversaires directs.
C'est tous des matchs à 6 points, mais j'ai trouvé vraiment, quand tu as une prétention affichée de faire partie du top 4, tu peux pas te permettre de ne pas te révolter. Je parle pas de perdre, évidemment, mais de te révolter sur le terrain. J'ai l'impression que les joueurs, c'était la deuxième journée du championnat, quoi.
Je suis assez d'accord. Moi, j'ai trouvé un joueur que j'ai trouvé très bon, c'était Lestienne. Il était impliqué sur tous les bons ballons, j'ai l'impression, du Standard. Il en était. Côté Zult Waregem, parce qu'on a beaucoup regardé le Standard, mais finalement, avec ce championnat qui est complètement fou, si ça se trouve, on parlera de Zult Waregem quand il s'agira de commenter le Playoff 1. Et Bruno, 2 buts, 16 buts en championnat cette année, arme offensive. Majeur.
Facture en plus,
ouais.
À chaque fois.
Ouais,
très rarement des buts de raccro.
Mais, c'est drôle un peu la carrière de ce joueur, parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on en parlait et que ça a toujours été un espoir.
Tu confonds avec Massimo peut-être.
Non, il était à Lille.
Il était à Lille et puis après il s'est un peu perdu. Je pense qu'il était au Cercle l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou il y a 2 ans. Enfin, exact. Il est revenu au Cercle à un moment et puis il fait maintenant que des équipes supposées du sub-top belge. Et bah pourtant, il est un des meilleurs buteurs du championnat. Et...
Il a du temps de jeu.
Ce qui est impressionnant, c'est que le même week-end, il change de vareuse, et puis il va jouer avec Charleroi, il met un goal incroyable.
Et il a le droit, ça.
Sur la musique d'Armstrong, qui était deux jours de pleine lune.
Bon, mais la chance, je vois quand même une chance pour le Standard, malgré cette performance. C'est la médiocrité de ses adversaires directs, parce que si le Standard, alors au classement on en parlera tout à l'heure, le classement veut pas dire grand chose, enfin en tout cas la position au classement aujourd'hui, ils sont 10e, mais ça n'a pas vraiment de valeur parce qu'ils sont à 3 ou 4 points du 3e. Donc,
comme tu le disais ce matin dans les infos, je veux dire, il y a 8 équipes en 3 points.
Il y a 8 3 points.
Bon, on en parlera quand on regardera le classement, mais je voudrais qu'on passe à l'équipe qui a été la plus décevante de toutes du week-end, Anderlecht. Anderlecht battu 0-2 face à Courtrai au Parc Astrid, je vais l'appeler comme ça.
Quoi, t'aimes pas le Lotto Park?
Non, au Parc Astrid, Anderlecht jouait bien.
Anderlecht jouait bien, oui.
Même au Constant Van Nistelrooy.
Même au Stade Émile Verset.
Je sais pas, surtout au Stade Émile.
Mais alors là,
l'Auto Arena ne le réussit pas.
La question, c'est où était donc Anderlecht hier? Parce qu'ils ont été bousculés, malmenés, maltraités, tout ce qu'on veut par Courtrai. Dès les deux premières minutes, il y a deux occasions énormes pour Courtrai. Henri.
Paris perdu, hein. Il a fait un pari de...
Oui, Paris a perdu hier soir, on en parlera aussi, t'inquiète pas, je prends pour moi aussi.
Non, j'ai accompagné, a fait un pari avec une composition Hirotemi-Asga, il y a deux tours à Courtrai, il y a Gueye et Gano qui font 2m23 et 2m26, Hirotemi a sa plus grande tour, moi Miasga je suis pas fan, mais enfin de la tête c'était à peu près le seul en défense qui avait... Un truc, dans les deux premières minutes, il perd déjà son pari.
Ouais.
Après, où ils étaient, je pense.
D'autant que c'est une faiblesse récurrente, le jeu de tête d'Anderlecht depuis le début de saison. Hein. Un seul but.
Ouais, c'est ça, un seul but marqué.
Par Dimata qui est parti, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça.
Donc, oui, c'est vrai qu'au moins avoir une solidité.
Après, tactiquement, je pense qu'il a pris une leçon. Je dirais, Elsner est venu avec un schéma qui a fonctionné dès le début, qui a même mieux fonctionné que ce qu'il espérait, je pense. Alors, c'est pas une surprise, il avait fait la même chose avec l'Union il y a 2 ans. Il est venu gagner 0-3 avec une équipe soi-disant moins forte que celle qui était alignée sur le terrain. Bon, je sais pas, Compagnie devrait tirer des conclusions, mais il y a des... Je sais qu'autour de la table, on a des avis là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres impératifs qui font que...
Toi, tu penses vraiment que...
Moi, où je suis déçu, c'est... Ok, c'est un jeune entraîneur, c'est une jeune équipe, mais on a l'impression qu'il apprend pas. Il n'a pas le temps, il a plus le temps maintenant. Il reste 6 matchs, il a des objectifs quand même. Playoff 1, c'est un minima. Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Maintenant, je me mets dans la peau. Je vais lui dire merci à Compagnie parce que j'apprends quelque chose. Moi, j'ai grandi avec un Anderlecht conquérant, champion une saison sur deux, Coupe d'Europe, performance, etc. Ben, j'apprends l'humilité. Quoi.
Ah ouais. Et justement, oui, c'est.
Et j'apprends.
Est-ce que les joueurs en font preuve? Est-ce que Compagnie fait preuve d'humilité?
Je pense pas.
Ou est-ce qu'il... Enfin, j'ai du mal à... Moi, je l'ai trouvé... On va peut-être d'abord dérouler un peu, parler
des, le match.
De le match. La première mi-temps, ils ont été complètement...
Étouffés.
Ils auraient pu marquer. Il y a eu une occasion, notamment une action assez incroyable où Gueye remonte le ballon seul. Il est attaqué par personne.
Il fait une passe.
N'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi.
Il fait 60 mètres.
Mais il a fait 60 mètres. Il y a un joueur qui recule, hein, qui glisse. Enfin, il doit même être étonné de se retrouver...
Comment veux-tu
qu'ils lui mettent la passe dans la profondeur, bien sûr. Et ils ont ouvert la marque logiquement sur une action qui était.
Non, mais ça ne pouvait encaisser que comme ça. C'est ça. D'une absurdité.
Un but absurde pour une équipe qui a mal joué.
D'abord, il y a pas corner.
Anderlecht. Il y a pas corner. Mmh. Alors, c'est ce que je me suis dit Wallen Reuter a été tellement pas protesté que peut-être qu'il sait lui qu'il a touché la balle.
Bon, peut-être.
Peut-être.
Bon, c'est pas ça le débat.
Non.
Après, la balle lui vient, il est plein centre.
C'est le côté discipliné allemand.
Voilà. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il a touché le ballon sur la frappe.
Ah oui, il l'a mis en pleine poire de Sainsbury.
Sainsbury qui s'est retrouvé tout seul.
Si vous n'avez pas vu le goal, c'est un corner classique, dans le petit rectangle, une reprise de la tête, plein centre.
Qui n'est pas compliqué que ça. Hein.
Tout le monde est persuadé qu'il va la capter gentiment. Il met ses mains en opposition, il la repousse sur le...
Sur le front de... Le nez, peut-être, on ne sait pas.
De Salisbury qui passait par là.
Exactement, qui a dû se demander ce qu'il...
Qui jouait à balle chasseur ou quoi.
Ce qui est inquiétant, c'est que ça fait quand même...
Au Crix.
Ça fait déjà 3-4 goals casquettes comme ça quand on prend des mésententes, sur des...
Ouais, mais enfin, je pense que, je m'excuse, je vais être un peu plus sévère que toi, Henri, mais je sais que t'es supporter, donc voilà, je pense que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Il faut arrêter de dire, c'est faux, t'as pas de chance.
Non, pas du tout.
Je parle pas de toi, je parle en général,
c'est
derrière ce petit doigt-là que se cache Vincent Compagnie, pour lequel j'ai plus grand respect. Et moi, je ne suis pas du tout entraîneur. Mais il y a un moment où il faut quand même se poser les bonnes questions. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai la sensation que Compagnie ne serait pas le boss d'Anderlecht, il serait salarié par Anderlecht et il aurait un boss au-dessus de lui, dans n'importe quel autre club, il ne serait plus là. On leur aurait donné son C4. Il y en a qui sont partis avec des résultats bien plus probants que celui-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et hier, je l'ai noté, je ne sais pas si vous l'avez vu, les interviews d'après-match des joueurs, notamment, je ne sais pas le prononcer, Belhadj ou...
Aïd Belhadj.
Oui, tout à fait, qui est une promesse du football, on est bien d'accord. Il relevait tous, il a parlé de manque d'audace. Et ça, c'est pas les joueurs. Je pense pas que Compagnie ait dit « Allez-y, osez », que les gars sont restés timorés. On l'aurait vu un peu s'exciter, s'agiter. Donc le manque d'audace, il est clairement sur le banc. J'ai l'impression aussi que quand tu vois les résultats en Dancy, d'Anderlecht, je parle pas en termes de résultats de points, mais en termes de performance et de fond de jeu, c'est trop en Dancy. Il y a pas de... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il manque, alors peut-être que ce sera un excellent entraîneur, je trouve que pour le moment, à part son charisme, tu lui enlèves son nom, son charisme, sa symbolique, je veux dire, c'est juste personne. Elsner, qui a pas beaucoup plus que lui d'expérience, je veux dire, à haut niveau, peut-être même moins, je parle en du haut niveau, Compagnie, bon, il a pas été entraîneur de grands clubs, mais il a quand même joué à Manchester, champion d'Europe, champion d'Angleterre, enfin, je veux dire, il y a quand même un CV long comme le bras. Et prendre une leçon tactique comme il a fait, comme tu le relevais très justement, Henri, je me dis, il devrait se poser les bonnes questions.
Ouais, et la tactique était simple. Hein, je veux dire,
et s'il est fatigué, il n'a qu'à faire comme Preud'homme. Preud'homme était dans les circonstances plus ou moins les mêmes, entraîneur et président ou vice-président, je ne sais pas. À un moment, il dit, je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus le dash, je n'y arrive pas, les
il
gars.
Il a dit le coeur, j'ai entendu.
Voilà. Eh bien, je sais pas, Vincent, si tu nous écoutes, c'est peut-être temps de se poser des bonnes questions. Parce que, finalement, il se cache aussi en derrière, on est toujours là, on est toujours en cause pour le top 4.
Ça le rend pas service.
Mais dans un championnat normal...
Ils sont largués.
Ils seraient en train de jouer des matchs à 6 points. Donc comme
peut-être que dans un championnat normal, ils auraient eu un peu plus de comment dire, qu'ils auraient mieux joué, tu vois, que ce que, justement, en voyant que leur opposants principaux ne suivaient pas, enfin justement les lâchaient et qu'eux n'arrivaient pas à suivre le rythme, ils se seraient remis en question vite.
Alors ce serait un problème de joueur, mais le problème il est clairement dans le fond de jeu. Le match qu'on a vu, et c'est pas une première, il y avait juste rien. À la limite, quand tu vois Anderlecht bien jouer, et tu le dis parce que je le relève aujourd'hui, c'est pas pour me moquer, parfois tu dis autant la semaine dernière j'étais inquiet, maintenant je me suis rassuré, etc. Et on passe comme ça de l'ascenseur émotionnel permanent.
C'est cette confiance, moi je trouve cette confiance qu'il a dans...
Le fameux process.
Ça va finir
par être le sien, le process.
Ouais. Regardez les statistiques, ils ont fait quasiment 600 passes, beaucoup, beaucoup plus que leurs adversaires.
Oui, mais entre Lyssen et Delcroix.
Non, mais c'est ça, il y a un moment où ça tricote.
Ils ont fait des passes entre Lyssen et Delcroix.
Et on demande, et Delcroix, la défense a été très mauvaise, et il demande des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il demande des choses... Il est dogmatique, il veut s'accrocher absolument à sa philosophie, mais il demande des choses à ses joueurs qu'ils ne savent peut-être pas faire. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui a dit une chose très juste, ça s'appliquait à une action de Sardella. C'est Philippe Albert qui commentait le match. Écoutez ce qu'il a dit. Pour moi, ça pourrait s'appliquer à... Ça peut être une image de quelle équipe d'Anderlecht.
Très très grosse occasion, mais bon, quand c'est compliqué de jouer avec son pied droit, faut pas lui demander de cadrer pied gauche non plus, pas évident.
Voilà,
c'est dans le bus.
C'était Sardella qui s'est retrouvé, qui a fait une reprise de volée complètement dévissée du gauche, et il dit, ça s'applique à lui là-dessus, mais quand on sait pas jouer du pied droit, c'est difficile de... Est-ce que ces joueurs-là, il leur en demande pas trop, c'est-à-dire que Compagnie, est-ce que s'il avait un club d'un plus haut niveau, des joueurs d'un plus haut niveau, est-ce que son... Toute sa stratégie, toute sa philosophie de jeu, elle serait pas plus...
Je pense qu'il y a plus performante. Il y a un exemple, c'est un peu la même chose, je pense, c'est Thierry Henry à Monaco quand il était arrivé, où il comprenait pas tout comment les joueurs n'étaient pas capables de faire ce que lui arrivait à faire en tant que joueur. Et peut-être que Compagnie est là-dedans, qui comprend pas comment un joueur ne peut pas mettre un tacle comme sur le deuxième but, le défenseur, je sais plus qui c'est, qui rate complètement son intervention, Compagnie, il aurait réussi. Et ça, peut-être que lui, quand il arrive dans le vestiaire et qu'il voit ça après, il se dit, mais comment est-ce que c'est possible de rater ça? Parce que même nous, qui ne sommes pas footballeurs, quand on le voit derrière la télé, on se dit, mais comment est-ce qu'il peut rater la balle à cet endroit-là, quoi?
Ouais, c'est...
Moi, je pense qu'il y a deux choses donc il y a la tactique, donc choisir une tactique, et il y a la gestion du vestiaire. Et je pense que...
Justement, excuse-moi de t'interrompre, je me pose la question, quand j'ai entendu la réaction des joueurs et qu'on voit ce manque de révolte sur le terrain, et puis arriver, bon, il n'y a personne qui se présentait au micro, il a fallu attendre une dizaine de minutes, ce que je conçois parfaitement, parce que hein, ils avaient tous envie de prendre la pelle, creuser leur trou et de se cacher. Mais d'un autre côté, est-ce que, on ne pourrait pas se poser la question, est-ce que Company a encore la confiance du vestiaire? Parce que pour qu'il n'y ait aucune révolte comme celle-là, je me pose la question. On a posé
deux
la question.
Deux matchs de suite, après, au cercle. Et...
Tout à fait. C'est des non-matchs, quoi. C'est pas du tout que les joueurs n'ont pas de talent. Ils ont du talent. Excuse-moi, mais on parle de... Oui, il n'a peut-être pas les joueurs, machin truc.
Si,
Gant a été champion avec un football champagne agréable de Van Azebroek avec 11 inconnus à l'époque. Après, on dit oui, avec Kums, machin. Mais il a fallu...
Il a de quoi battre le cercle et battre Courtrai, quand même.
Ben, normalement, quand tu t'appelles Anderlecht, oui.
Quand je parlais de gestion du banc, il y a... Très belle, moi, c'est une énigme. Le mec était aux oubliettes, puis on le remet, puis il se blesse, on le fait rejouer, puis on le remet sur le banc.
Bah, très belle, c'est le Carcella d'Anderlecht, quoi.
Ouais.
En quelque sorte.
Sauf qu'il n'a rien fait pour le club. Il a juste plombé le club financièrement, quoi.
Ouais.
Et alors,
Sarvel. Enfin, il a pas, c'est pas lui. Hein,
non, c'est représentant.
Anderlecht, c'est qui sert. Aussi, hein.
La gestion des jeunes, Sardella. Moi, j'avais signalé ça il y a quelques semaines. Il avait des stats de passes ratées. Donc, il intercepte le ballon, il a un positionnement qui est correct pour un arrière-droit, mais la relance, c'est une catastrophe. Je crois qu'il était à 60 ou 70% d'échecs dans ses relances.
Tu peux dire 30% de réussite.
Mais c'est en ça que je dis... Est-ce
qu'on lui rend service, je veux dire, c'est...
Mais est-ce que Company devrait pas se remettre en question? Moi, je comprends l'idée de dire... Vous êtes, il l'a dit, vous êtes dans la culture de l'instant, du résultat. Ok, on peut perdre quelques matchs. Ok, les joueurs peuvent louper. Il l'a dit.
Un sentiment de déjà-vu.
Et puis, il y a un moment où
il reste 6 matchs.
Il reste que 6 matchs, voilà. Il y a déjà eu 28 matchs de jouer. Il se dit, je mourrai avec mes idées, mais il y a un moment où tu dois aussi t'adapter un petit peu pour essayer de changer ta philosophie,
preuve d'intelligence, hein, exactement. De pouvoir reconnaître ses erreurs en définitive.
Et là où j'ai trouvé un limite un peu, alors prétentieux, c'est peut-être pas le mot, mais ce que je vous disais avant, j'ai l'impression qu'ils vont travailler des choses très très raffinées, très recherchées, et que le basique, la base manque. Il y a ce corner à la 20e minute où ils font une chenille dans la surface. Il y a tous les joueurs, à part le Wellenreuter, tous les joueurs sont aux 30 mètres. Il y en a un au corner, un qui est à côté pour faire semblant de, on va faire le corner à deux, puis trois autres qui sont placés en arc de cercle. On a l'impression que tout a été placé par un architecte qui leur a donné des consignes pour être parfaitement placé sur ce corner, qui bien sûr n'aboutit à rien, puisqu'il ne marque jamais sur corner. Et je me dis, mais ils doivent passer un temps fou à planifier des choses très raffinées, très précises. Exactement.
Gauche,
alors qu'il manque l'essentiel.
Bah, c'est comme quand tu reçois une splendide assiette, super bien décorée, etc., et que la viande n'est pas bien cuite.
Mais on parlait d'audace, c'est exactement l'inverse de l'audace. Ça, c'est le truc où tu fais ce qu'on t'a dit, quoi. Donc on a préparé l'entraînement, il y en a un qui se met là, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Donc il n'y a aucune initiative, aucune audace.
Ouais, c'est sans doute ce qu'on appelle le dépassement de fonction, peut-être, qui opère pas, et peut-être qu'ils sont... Peut-être quand il disait qu'ils ont eu peur, peut-être qu'ils ont peur de lui, de Company.
Je ne sais plus quand le truc, c'était il y a quelques semaines, c'était la même chose. Donc la tactique mise en place par les adversaires était très simple, c'était pression très haut, et empêcher les deux, donc que ce soit Lokonga, et puis après Kullen ou... C'est Achimeru qui a commencé le match, les empêcher d'avoir le ballon. C'est que ça. Mais il n'a pas réagi. Il a gardé la même stratégie. Lui, Anderlecht n'a pas changé de stratégie, alors que c'était écrit comme du papier à musique, quoi. Il faisait un pressing très haut et ils empêchaient le triangle central d'avoir les ballons. Et c'est fini, il n'y a plus match.
Ouais.
Parce que les deux ailiers, Mukairu et Brun Larsen, étaient à la ramasse.
Mais okay. Tu vois, j'ai l'impression, c'est marrant, je reviens avec ça. On l'a évoqué il y a 15 jours, 3 semaines. Tu me parles des joueurs d'Anderlecht, je ne sais même pas de quelle équipe on parle si je prends l'émission en cours. Il n'y a aucune figure emblématique dans cette équipe.
Et surtout, l'équipe...
Tu disais Zetterberg, tu disais des noms comme ça et tout le monde savait à quoi on faisait référence. Si tu ne dis pas Company, est très belle quand il joue, c'est-à-dire jamais, tu ne sais pas de quelle équipe on parle.
Et puis le 11 de base, il change chaque week-end.
C'est ça.
Il n'y a pas de 11 de base, c'est un perpétuel changement. Enfin, ouais, ça rejoint ce que tu dis, parce qu'on ne peut pas s'attacher à des noms si on les voit jouer un week-end sur trois.
Clairement.
Et là encore, est-ce qu'il n'est pas déphasé un peu, Company? Quand je dis déphasé, c'est son style de management. Est-ce qu'il ne correspond pas à un club anglais qui a un effectif fourni avec des joueurs de top niveau avec qui tu peux bosser des points très précis et puis on tourne parce qu'il y a un calendrier, on fait rentrer les uns les autres.
Il dit, je fais avec la matière que j'ai.
Bah, oui, j'ai pas l'impression. Moi, je trouve, je crois pas. Enfin,
En tout cas, avec la matière qu'il a, il a de quoi
faire différemment.
Oui, mais enfin, en même temps, si tu regardes un petit peu, alors après, moi, je suis pas dans les arcanes ni supporter d'Anderlecht, mais quand il est arrivé, déjà, on l'a vu comme le Messie, sans mauvais jeu de mots, hein, d'accord. Il est venu avec dans ses valises un Gallois, il est venu avec dans ses valises Samir Nasri, il est venu avec dans ses valises, comme ça, 3-4 autres personnalités.
Ne rigole pas, Blaise.
Qui, au niveau belge, bien sûr, pouvaient apporter un plus. Et en définitive, ça a duré 2 mois, 3 mois, il s'est séparé de tout le monde. Donc j'ai l'impression qu'en fait, finalement, c'est un petit peu un dictateur qui veut régner sans partage, ou qui se sent obligé de régner sans partage, ou peut-être que les autres ont montré leurs limites, je n'en sais rien. Mais finalement, tout son process ou son projet, qui était basé, articulé avec 5-6 personnes, aujourd'hui, c'est Vincent, compagnie.
Et Vincent Compagnie.
Quoi.
Mais c'est un type, on en a déjà parlé, c'est un type qui est programmé pour gagner depuis qu'il a 16 ans.
Qu'il le montre avec plaisir, hein. Moi j'attends ça.
Il ne sait pas gérer la défaite, je pense.
Mais on s'en fout, on s'en fout s'il sait ou pas. Moi ce qui m'intéresse, et je t'avoue franchement, tu sais que je suis brugeois, mais moi j'ai envie de revivre des soirées européennes comme on en vivait à l'époque avec Anderlecht. Moi je suis belge avant tout, Standard, Bruges, des grands clubs, même la Gantoise. Au jour d'aujourd'hui, si tu vois Anderlecht, tu ne peux même pas les imaginer en Coupe d'Europe comment ils seraient mangés aujourd'hui. Ce serait presque ridicule qu'ils y soient, honnêtement. S'ils doivent produire un football comme on voit. Hein,
Vincent, ressaisis-toi.
Oui, je l'ai trouvé dans l'interview d'après-match. Il était un peu désagréable, un peu vexé sans doute, parce que ils ont pris une fessée, 0-2. C'était la première fois depuis...
Plus d'un an qu'ils perdent à domicile.
Qu'ils perdaient à domicile. Et puis je crois que Courtrai n'avait pas marqué 2 buts depuis au Parc Astrid. Depuis le Parc Astrid. Voilà.
Mais Courtrai, il faut leur laisser ça. Ils ont deux trucs qu'il faut noter. C'est que de un, ils n'ont plus rien à gagner ni à perdre dans ce championnat. Si ce n'est l'honneur. Et il faudrait que ce mot reprenne un sens du côté de Saint-Guidon. Hein, je dis ça, je dis rien. Et dans beaucoup d'autres clubs belges. Il n'y a pas qu'Anderlecht. Mais... Donc c'est une équipe qui n'avait...
Il dénonce l'idée là.
Mais c'est vraiment ce que je pense. Tu vois des joueurs qui n'ont pas le renom, qui n'ont pas la classe, sur le papier, s'entend, et qui se battent comme des morts de faim de la première à la 90e minute, alors qu'il n'y a juste rien à gagner pour eux. Ils peuvent gagner tous leurs matchs, ils ne seront pas dans le top 4, donc c'est clair et net. Et ils peuvent tous les perdre, en principe, ils ne seront pas non plus éjectés de la... Donc il n'y a rien à gagner ni à perdre, et ils font un match plein. Alors tu vas me dire, quand on vient d'Anderlecht, à Bruges ou au Standard, on a toujours une motivation de plus. Ok, très bien. Mais là, ils ont donné une leçon de football à sinon le plus grand de Belgique, sur le papier en tout cas, et un des grands d'Europe, en tout cas, si on en croit les statistiques. Et ça fait peur, c'est ça qui me fait peur. Anderlecht, plus personne n'a peur d'aller au Lotto-Park, plus personne. Ils vont tous jouer leur jeu et Anderlecht s'adapte au jeu de l'adversaire chez lui à la maison. D'où par où.
Et le pire, c'est qu'avec ce classement, ils ne sont même pas morts. Quoi.
C'est ça. Parce qu'on est en train de les tailler complètement et ça se trouve. On parle du futur champion. Bon, on va pas exagérer, mais enfin, en tout cas.
Mais c'est ça qui est malheureux.
C'est ça qui est malheureux.
Parce qu'ils ne prendront pas la leçon. Et Vincent ne prendra pas la leçon. Il va te dire, on est 5, hein, on va finir dans le top 4, c'est ça le but.
Puis on verra
4 points du premier, quoi. Super, les gars.
Allez, on avance, on parle. Tu as autre chose, vous aviez un mot pour conclure sur ce match.
J'aimerais quand même souligner un point. Toujours pas de faux pas vestimentaires de Vincent Compagnie depuis le début de la saison.
Il était impeccable. J'ai trouvé que c'était les petites baskets blanches.
Il était à la pochette.
Il était impeccable.
Non, il va sortir une ligne de fringues là. Au moins, il va être créatif et il aura de l'audace.
Mais c'est vrai. Après, je me suis demandé si, avec le beau temps qu'il y avait eu hier, est-ce que ces joueurs n'étaient pas au bois de la corde.
Exactement. Je me suis posé la même question.
En tout cas, eux, ils étaient masqués. Ça, c'est clair.
Allez, on passe à un autre match, le troisième du championnat. J'arrive même pas à le dire. J'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'on parle de cette équipe qui ne fait que perdre et qui ils sont troisième.
C'est Genk, qui était à un point de Bruges. De Bruges. Il y a 2 mois à peine.
Genk qui a perdu contre le Berscott. Contre le Berscott, 1-2. Ils font pourtant un bon début de match. Les Genkois. On dit Genkois.
Moi je peux.
Allez, je dis Genkois.
On dit Genkois.
Qui sont dangereux.
Limbourgeois.
Les Limbourgeois partent 3 fois dans le premier quart d'heure. Puis il y a un très bon moment, notamment de Genk avec. Du Berscott avec Suzuki. Sanusi qui fait une formidable action à un moment, un très beau double contact et un centre. Et Holzhäuser. Et Holzhäuser qui va être proche d'ouvrir le score en frappant sur la latte. Je m'adapte, la latte.
Ouais.
Et la deuxième mi-temps redémarre bien pour Genk, avec des opportunités à la reprise, mais le but... Ah oui, la célébration. Le but de Vandenberg à la 64e minute, d'une frappe d'au moins 30 mètres, magnifique, exceptionnelle frappe, suivie de la célébration la plus ridicule de l'année. Hein.
Oh là 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 là. Je pense que c'est inspiré du célèbre jeu vidéo...
Fortnite
non, FIFA.
Ah, FIFA.
Ouais, je pense que ça vient de FIFA.
Je crois qu'il y a des Islandais qui avaient fait... C'est le...
Ça ressemble à un petit serpent, je crois.
Non, je crois que c'est le poisson qui a été pêché et qui est hors de l'eau. Ouais. Et qui n'est pas dans la bassine.
Je l'avais pas reconnu.
T'as pas vu, Didier?
Non, je n'ai pas vu du tout.
Le type est sur le ventre, les bras le long du corps, et puis... Il sursaute comme ça.
C'est très radiophonique.
Oui, c'est très. Heureusement que Didier est à côté de moi pour voir, mais auditrice, auditeur, je vous conseille d'aller voir ça. C'est une célébration tout à fait ridicule. Mais bon.
Mais voulu.
La de beauté du but rattrape le ridicule de la cible.
Magnifique frappe.
Si les footballeurs étaient nobilisables, ça le saurait
aussi. On va dire ça.
Non, il s'amuse.
Genk aurait pu revenir au score par une tête de Onuachu qui marque plus trop ces derniers temps, qui est toujours le leader du classement des buteurs.
Il se repose, il danse sur ses lauriers.
Puis un pénalty sifflé. Et alors là, j'aimerais bien qu'on... je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais je vais le dire pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu, c'est Munoz qui est un peu bébête sur le coup. Il se fait siffler un pénalty pour une main dans la surface. L'action démarre, il met ostensiblement les mains derrière le dos. Donc on le voit, hein, il a les mains derrière le dos. Et puis au moment où l'autre fait son centre, il enlève ses mains et puis fatalement le ballon lui touche un bras.
Ça va tellement vite, ces réflexes probablement.
C'est du réflexe totalement, ouais.
Moi, j'aimerais pas être à leur place parce qu'on leur apprend des choses contre nature, ces défenseurs. Quand je vois Ramos ou d'autres comme ça en pleine course qui arrivent encore à penser à mettre leurs mains et de sauter avec les mains dans le dos, je veux dire, c'est tellement contre naturel. Je veux dire, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour. Je pense qu'il y a même des animaux de cirque qui auraient des organisations qui veilleraient à leur bien-être si on devait les forcer à faire des choses comme ça, quoi.
Mais c'est surtout contre naturel pour un joueur de foot. C'est la semaine.
Bien sûr.
Il y a un joueur qui, la semaine dernière, je crois, qui s'est vu siffler un pénalty. Non, c'était pas. Où il n'y a pas eu.
On en avait parlé. Je me souviens plus de quel joueur c'était. Et c'était le ballon lui revient sur la main.
Dans la main, il regarde même pas le ballon. On dit oui, mais il étend la surface de son corps. Non, il est juste en train de courir. Et il ne se préoccupe pas du ballon parce qu'à ce moment-là, dans l'action, il ne doit pas se préoccuper du ballon. Mais il lui tombe dessus.
Mais ça, je pense que ça dépendra des arbitres. Et puis, on revient toujours au même débat. Quoi. C'est la main dans la surface. Comment est-ce qu'on la comptabilise? Et de plus en plus, on la comptabilise comme un pénalty, comme une faute.
Je pense quand même qu'on vit dans une période un peu particulière et on a tendance à oublier une règle fondamentale, à laquelle moi je crois en tout cas, c'est il y a la loi et aussi l'esprit de la loi. Et en même temps, quand on dit ça, ça suppose une subjectivité, évidemment, pour chaque analyste. Mais c'est vrai que pour moi, quand il est clairement question que la balle rebondit et revient sur ta main, je veux dire, c'est pas une seconde, je vais siffler péno.
Mais
quoi.
Justement, ce fameux esprit de la loi, il n'existe plus à cause du VAR, et c'est devenu comme une espèce de science, pas infuse justement, mais une science exacte.
Non, moi j'ai déjà vu le VAR intervenir, alors dans les deux sens, parfois pour donner pénalty après ce fait de...
Mais ça dépendra des terrains, et ça dépendra des arbitres, celui qui est sur le terrain, celui qui est dans la camionnette, et puis il y en a qui vont se dire, moi j'ai pas envie de perdre mes jetons pour la saison prochaine, donc je vais siffler directement parce que le ballon a touché sa main, j'ai envie d'aller jouer j'ai envie d'aller arbitrer l'Europa League, j'ai envie qu'on m'envoie à la Champions League, je vais siffler main.
Je partage ton avis, mais là, évidemment, il s'agit de quelque chose. C'est pas comme si ça se passe ailleurs sur le terrain, parce que là, c'est chaque fois péno, ça veut dire une occasion franche de but, et pour ne pas dire un but, parce qu'on dit toujours
75%. Entre 75% et 80% de chance de marquer. Et
normalement, d'après mes infos, un pénalty bien tiré est toujours goal, normalement. Donc voilà. Mais quand tu vois. Je vais prendre un exemple, on reparle d'arbitrage sans rentrer dans la polémique. Mais je regardais le match de Bruges jeudi en Coupe d'Europe contre Kiev. Tu vois Charles de Ketelaere qui est au duel, épaule contre épaule, hop, sifflé. Parce qu'ils vont tous les deux à la balle, sifflé. Ok, c'est léger, c'est ok, très bien. Mais bon, tu te dis, l'arbitre... Et puis, 20 minutes après, tu vois une phase où tu vois clairement l'Ukrainien qui prend avec ses bras, qui pousse le Brugeois, et il n'y a pas faute. Alors tu te dis, ok, mais bon, ça c'est la grande incertitude du sport, etc. Mais ça se passerait dans le rectangle, tout le monde serait vent debout.
Oui, ouais, tout à fait.
Voilà, et c'est ça le problème, c'est que ça se passe dans le rectangle. Et que là, effectivement, il faudrait la loi, l'esprit de la loi, les joueurs, on ne peut pas leur couper les mains, comme disent tous les... Je n'ai rien inventé en disant ça, évidemment. Mais il y a un moment où tu sens si le gars, c'est un réflexe pour empêcher la balle.
Je suis d'accord, moi je pense que ce qu'on parlait avant disait... De manière un peu impropre, mais penalty. Il y a une main volontaire ou pas volontaire. On devrait revenir là-dessus.
C'est volontaire, c'est carte rouge. Hein.
Volontaire, ouais. mais dans volontaire, on devrait inclure le fait de
se protéger, quoi.
Enfin, voilà. Les gens qui courent en mettant en écartant les bras du corps.
Il faut regarder les athlètes qui font du saut hauteur. C'est le bras qui entraîne. On a besoin des bras pour sauter.
Exactement. Pour sauter, on a besoin des bras. Et c'est
pour courir, on a besoin des bras pour tout.
Exactement.
Tu as ça aussi maintenant avec les coups de coude. Il y en a plein qui font. Alors, il y en a certains qui.
On a besoin des bras aussi.
Bien sûr, mais non, mais quand tu les vois sauter, comment tu veux sauter pour apprendre une balle en plein.
Est-ce qu'on a le droit de mettre un coup de coude en temps de Covid si on a éternué dans son coude hein, c'est...
Si l'arbitre ne le voit pas.
Donc, Holzhäuser va marquer, c'est son 14e but de la saison, je crois. Ce pénalty, il le transforme d'une petite panenka.
Peut-être que Konrachou va se réveiller.
Non. Et Rozovski a sauvé l'honneur d'un superbe but à la 92e minute. C'était un petit peu tard. Gros manque d'efficacité de Genk. Et la question pour Genk, c'est savoir jusqu'à quand. Jusqu'à quand vont-ils être dans le top 4? Parce que là, ça commence à être...
Ça dégringole. Pas dans le classement, mais dans les performances.
Et justement, puisque tu parles de classement, il est l'heure de parler de ce classement assez incroyable. Là, je l'ai sous les yeux. Bon, Bruges peut arrêter de jouer. Ils ont 12 points d'avance et 2 matchs de retard.
Ça va être divisé en deux.
Mais on va vous tenir au courant pour la première mi-temps parce que le match va débuter bientôt. Enfin, potentiellement, ils ont encore 6 points de plus.
Ça a déjà commencé. J'ai reçu
la notification. Donc 12 points et potentiellement encore plus d'avance sur Antwerp. Mais bon, on ne parle pas encore du titre. Là n'est pas la question. On se concentre d'abord sur le play-off 1. L'Antwerp est plutôt bien embarqué, ne serait-ce que parce que c'est une équipe qui... Parce que c'est une équipe.
Qui a Didier.
Et qui a Didier. Ils ont Didier.
Pas moi.
L'autre. Et ils alternent un petit peu moins les hauts et les bas que tous les autres, parce que tous les autres, et quand je dis tous les autres, c'est 8 équipes de Genk 3e, 40 points. Genk 3e, 43 points. Au 11e, Charleroi, 39 points. Il n'y a que 4 points, sachant que Charleroi, bon, ils ont un match de retard contre Bruges.
Ouais.
Mais on ne sait jamais. Mais enfin, en tout cas, ça fait 8 équipes concernées au plus haut point par cette course au play-off 1. Et mine de rien, la semaine prochaine, on a un classico entre le 10e et le 5e de Jupiler Pro League. Mais deux équipes qui se tiennent, 42 points pour Anderlecht 5e et 2 points de moins seulement pour le Standard, 10e avec 40 points.
Oui, mais 10e.
Mais 10e.
Non, mais on va voir aussi l'avérage maintenant, parce que s'il y a des ex-échos, ça va se faire à l'avérage ou à la confrontation directe? Parce qu'à mon avis, on va devoir ressortir les calculettes.
D'abord
les
à l'avérage, hein.
L'avérage,
je pense.
Alors pour Anderlecht...
C'est une catastrophe, parce qu'ils ont 12 matchs nuls. Hein.
Ouais, pour l'instant, ils sont à plus 7.
Je pense aux victoires, comment ça se passe.
Plus 7, plus 6 seulement. Aux
victoires, alors c'est encore pire.
C'est une catastrophe.
Et aussi, juste pour revenir vite fait, j'aimerais mettre un carton rouge à la pelouse du stade
de Zult
contre le Standard. Parce que autant on avait trouvé l'excuse de la neige il y a quelques semaines pour l'état des pelouses, mais là je pense pas qu'il ait fait un climat hivernal dehors. Et la pelouse était dans un état mais catastrophique, quoi. Alors qu'on n'aille pas me dire qu'il y avait un concert de Johnny avant, parce que c'est
laisse Johnny où il est.
Ouais. Son état est stationnaire, paraît-il.
C'est souvent les excuses pour les gros stades. Il y a eu un concert avant, la pelouse est dans un mauvais état. Là, c'était pas le cas. Ils ont pas joué dessus. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux qu'un club de Pro League ait un terrain comme ça.
Ouais, c'est pas les seuls, hein. À part quand c'est synthétique à Saint-Tron, mais tu vas à OHL, t'as pas un tapis non plus. Il y a d'autres stades comme ça. Ça ne me revient pas. Mais à part les grandes cylindrées, et encore, hein, parfois le stade de Constant Van Neuf, ça fait peur aussi. Mais, et Bruges, quand ils ne remettent pas une nouvelle pelouse, mais comme il y a deux clubs qui jouent, donc forcément c'est renouvelé plus souvent. Mais par contre, alors il y a une question que je me pose par rapport à la semaine passée où, quand le match Bruges-Charleroi a été remis, c'était il y a déjà 10 jours de ça, je ne sais plus.
Oh, plus que, oui.
Il faudra qu'on m'explique comment un club de D1 comme Charleroi n'arrive pas à proposer un terrain un petit peu... À Kiev, il y avait moins 20 et on a joué au foot. À Charleroi, il y avait moins 7, on n'a pas joué au foot. Et le lendemain, au parc d'Uden, on a joué au foot. Et c'est que des bénévoles, hein, parce que l'Union, c'est pas... voilà, ça
ils
pas
sont
les
relayés. Alors c'est vrai qu'au
j'ai
niveau
pas capté, y a quelque
l'Union,
chose
il y avait une mobilisation.
Ouais. Terrible.
Pour qu'on puisse jouer.
Mais ça veut dire que c'est possible.
Oui, ouais, bien sûr.
Jusqu'à preuve du contraire, arrête-moi si je me trompe, le football est catégorisé comme un sport d'hiver. Sinon, on ferait le championnat de mars à octobre.
Oui, ouais, c'est pour ça qu'ils vont faire la Coupe du Monde du Qatar en décembre.
Oui, mais dès qu'on a un centimètre de neige ou deux centimètres de neige, ça s'arrête et ça fausse. Je ne veux pas dire tout le championnat cette année parce que ce n'est pas le cas.
Non, mais si Bruges et Charleroi étaient dans une position... Enfin, là, Bruges est déjà champion et Charleroi est... Enfin, bon, ils peuvent encore
et
avoir les play-offs.
Ils sont candidats au play-off. S'ils gagnent, ils ont, une belle chance aussi. Mais bon, je veux dire, après, ça, on sait que les calendriers sont hyper chargés. Donc, je parle de Bruges. Bon, Charleroi, malheureusement, plus. Mais ça aurait pu. Et je veux dire, où tu vas aller caser ça? Où tu vas caser ça pour vraiment de la logistique qui me paraît être de base?
C'est peut-être la chance de Charleroi et d'avoir un match de retard contre Bruges, parce que si Bruges reste impliqué...
Et Bruges pourra choisir contre qui joue en play-off. Hein.
Et au bout du compte, c'est des points qui vaudront... ça vaut 3 points, mais à ce moment-là de la saison, ils feront peut-être la différence. Écoutez, il me semble bien...
C'est la mi-temps.
C'est la mi-temps.
Oui, il y avait un peu de temps additionnel.
On laisse toujours un peu de temps additionnel. On va écouter un peu de musique pour prendre un petit peu l'air. Je vous propose un titre de je ne sais pas quelle année, parce que je suis incapable de savoir si ça a été fait comme ça ou si ça a été repris par les mêmes chanteurs. Hein. Vous allez comprendre. Didier va peut-être nous répondre après l'avoir écouté.
Ah, tu mets la pression.
Daddy said
Aerosmith avec Run DMC, Walk This Way. Donc je me demandais si ça avait été... C'était une chanson d'Aerosmith à la base, et la version la plus populaire, je crois, est avec, avec Run DMC. Oui.
Elle a été remise au goût du jour, on va dire.
Voilà. J'ai une dernière chose à dire, non, sur le championnat de Belgique. Moi, il y a une petite chose qui m'est revenue, c'est juste pour... Allez, on va critiquer un peu Mbailey. Mbailey, il a descendu tous ses joueurs, enfin, les trois buts qu'ils ont pris, et il y a une chose, alors là, j'ai trouvé que c'était de la mauvaise foi, mais au plus haut point. Il a dit qu'il avait... Il y a eu une faute sur l'égalisation, donc il y a un coup franc. Et il dit, ouais, il faut pas faire des fautes, car c'est là de sait qu'il doit pas faire tenter un dribble là parce qu'ils ont des bons tireurs de coup franc en face. Là, c'est vraiment inhibant pour des joueurs. C'est-à-dire que si tu joues pas ton jeu et que de peur qu'il y ait un coup franc, que le type marque le coup franc, bon, bah, on arrête de jouer. Hein.
Mais là, en même temps, à sa décharge, je dirais qu'ils sont pas suspects d'avoir connu à l'avance l'analyse d'Mbaïlé. Mais les commentateurs, puisque je regardais le match, ont dit que c'était une faute vraiment pas nécessaire.
Ouais.
Et donc, très souvent, on entend, on dit, mais pourquoi il fait une faute à cet endroit-là, à ce moment-là, il y a une couverture derrière.
Dépit d'avoir perdu son ballon.
Et Carcelin, il a un problème
à
ce niveau-là.
Il y a quand même des endroits où tu ne commences pas à essayer de dribbler. Quoi. Enfin...
Sauf si tu t'appelles Marco Verratti, et justement... la musique. La Ligue des Champions, on va parler Coupe d'Europe maintenant. Henri, une dernière chose à nous dire sur la...
Non, il y a un truc qui me manque, c'est la vie de Blaise... La minute fashion, comment t'as trouvé Mbailey?
Pas mal. J'ai pas trop aimé la ceinture, elle était un peu trop voyante, mais tranquille.
Ça nous aurait manqué.
On a retrouvé les costumes qu'il avait.
Ouais, élégant.
Il avait le secret sur RTL.
Il est élégant.
Ah ben, on aura un concours, on aura un match dans le match la semaine prochaine.
Il faut qu'il fasse beau, parce que là, quand il faisait froid, ils étaient tous les deux avec des grosses vestes et des bonnets, du coup.
Ouais, c'était moins, je suis d'accord, c'était moins...
Ça nous aurait manqué, avouez.
Ouais. Ligue des Champions, donc la semaine dernière, on a eu le début des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On aura la suite cette semaine. La semaine dernière, Barcelone 1, PSG 4, Leipzig 0, Liverpool 2, Séville 2, Dortmund 3, Porto 2, Juventus 1. On va commencer par le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Barça. 4-1.
Pas photo.
Non. Même pas forcé, mérité.
Ouais.
Même largement mérité, même.
C'était... Curieux, est-ce que j'ai vu, on en a parlé, j'ai vu quelques autres analyses ici et là. C'était assez peu prévisible qu'ils prennent un bouillon pareil, les Barcelonais. Même si, une fois qu'ils...
C'était l'année pour les prendre, quand même.
Ouais. Et puis,
ils sont mal. Hein.
Idée d'avoir mis Piqué.
Mais c'est n'importe quoi. Il a pas joué depuis 3 mois. Il est sur les genoux et il joue alors qu'il joue contre Mbappé. Enfin, c'est.
Ah ouais, et l'image a été assez marquante. Celle où on le voit qu'il tire le maillot d'Mbappé à 50 mètres du but. Ouais. Catch me if you can. Voilà. C'était deux. Bon, la différence d'âge s'est sans doute fait sentir. Et puis surtout, oui, avec 2 mois ou 3 mois d'absence. C'était
drôle parce que sur cette antenne, du coup, on disait que ça allait être le match de Mbappé vu que Neymar était pas là et que c'était qui tout double, soit il prouvait, soit on le critiquait. Et voilà, il plante un triplé quoi, 24 heures après, c'est. Mais du coup, après, enfin, on va en reparler après, mais je pense qu'il faut aussi un peu mesurer les propos.
Savoir quoi. Raison.
Restons
voilà, exactement.
Restons sur la Ligue des Champions et sur la performance des Parisiens, c'est rare de. On va pas dire qu'ils ont déjà un pied en fer parce qu'on les connaît. Non,
c'est
justement.
C'est risqué
de le dire.
Il y a pas de public cette année. Donc.
mais ils ont perdu au Parc des Princes. Ils se sont fait éliminer par Manchester il y a 2 ans aussi. Donc tout est possible. Verratti a très bien joué. Il a été placé plus haut en l'absence de Di Maria, de Neymar. Il fallait des pourvoyeurs de ballon. Ça rejoindra ce qu'on dira tout à l'heure quand on parlera de la Ligue 1 et du match du PSG hier soir, mais il y a vraiment eu une belle, un très beau match des Parisiens. Mbappé a...
Surtout quelque chose aussi, tu parlais de Verratti, qui est impressionnant, c'est que il a couru dans ce match. Il est le joueur qui a le plus couru à Paris alors qu'il est sorti à la 70e, je pense. Et c'est juste pas Verratti, normalement, d'être le joueur qui court le plus. Ce changement de position, j'ai l'impression que ça l'a complètement transfiguré, en tout cas sur ce match-là, parce qu'il avait essayé en championnat, ça n'avait pas trop marché. Après, il a un peu joué dans un fauteuil parce que Busquets et De Jong étaient à la rue pendant ce match. Mais c'est vrai qu'il a été un joueur super important et au final avec Mbappé, c'est les deux joueurs clés du match, quoi.
Ouais, une très belle relation entre les deux. Et
mais je pense que
Piqué, ouais, l'homme du match.
Il plante un triplé, mais c'est aussi parce que Neymar est pas là. Quand t'as Verratti qui a la balle, qui a devant lui Neymar ou Mbappé, il peut choisir. Il attire le ballon aussi quand il.
Quand ce match se termine, on n'ose pas se poser la question de savoir est-ce que quand ça tourne bien comme ça, est-ce que Neymar est pas plus un handicap entre guillemets pour le PSG parce que il aspire le ballon et c'est pas un joueur qui aime le redonner ou qui il aime faire la différence seul. Il aime que tous les ballons passent par lui et c'est vrai que ça bride sans doute un peu.
On en revient à ce que je disais à l'époque dans un autre cadre, mais je persiste à penser que le Portugal avec Ronaldo n'aurait pas été champion d'Europe. Je pense que ça a libéré ses coéquipiers portugais contre la France, hein, je voudrais pas te faire du mal pour mais effectivement, d'habitude, quand les Portugais ont la balle et que Ronaldo est là, on passe à Cristiano, quoi. Et voilà. Et sans des gens comme Neymar ou Ronaldo, ça oblige les autres à être plus créatifs, déjà, à monter leur niveau, d'une certaine manière, parce que sinon, même inconsciemment, ils se disent, il est là, il fera la différence bien un moment ou un autre. Et là, effectivement, ça change la donne. Ce que je note aussi, malheureusement, mais c'est comme beaucoup de grandes Europe, dont Barcelone, dont le Real, le PSG, etc., c'est que cette année, et c'est tout championnat confondu, il n'y a aucune équipe, si ce n'est Bruges, je suis désolé, qui est constante.
Ouais, tout à fait.
Il y en a aucune. Tu vois, le PSG étincelant mardi, et puis hier à la ramasse complète.
Et Liverpool pareil.
Et Liverpool pareil, oui, dans l'autre sens là.
Liverpool, passons à Liverpool justement 0-2, une victoire en trompe-l'œil hein, peut-être, mais une victoire quand même. Donc on ne sait jamais parce que l'équipe est vraiment très très mal embarqué je parle plus du titre hein, bien sûr en première ligue ils ont 19 points de retard sur Manchester City mais on en reparlera tout à l'heure. Bon, ils ont gagné sur deux interceptions faites par Salah et Mané. Ils ont profité sans doute d'une expérience plus grande que celle de Leipzig qui
tourne bien pourtant.
Ouais, mais là ils se sont fait avoir, mais écoutez,
il y a un match retour.
Il y a un match retour à Liverpool.
C'est ça un peu le problème de Leipzig, c'est que c'est une jeune équipe et qu'ils sont des fois un peu naïfs. Et quand on tombe contre Salah et Mané, quand ils ont la balle dans une position comme ça, c'est des tueurs, quoi. Donc,
Mais ce sont des Mbappé avec un tout petit peu moins de talent inné, mais c'est des TGV, quoi.
Ouais.
Et je pense que même avec l'expérience ou pas l'expérience, quand t'as un gars qui court plus vite que toi, soit tu dois anticiper.
Lui tirer le maillot.
Voilà, ouais. Mais il n'y a pas le choix.
Tu le sèches. Tu le sèches, c'est tout.
Incroyable, voilà. Tu mets Usain Bolt et moi, il me passera chaque fois, même si je suis techniquement plus doué.
Tu lui fais un croc en jambe. Il passera pas. Il n'est pas très doué techniquement, d'ailleurs, Usain Bolt.
Ouais. On l'a essayé. Il a essayé.
C'était pas ça.
Un autre match qui a été fort intéressant, Séville 2, Dortmund 3, avec là, si on a parlé de récital de Mbappé, le récital d'Haaland qui a marqué deux buts et qui a donné une autre passe, une passe décisive, un assist, et un effondrement de Séville qui avait pourtant bien démarré. Séville, une très bonne équipe.
Moi, je vous avoue, ce soir-là, j'étais concentré sur Marseille-Nice, donc
t'as pas regardé. Et ce que j'ai trouvé amusant,
ses valeurs.
Ce que j'ai trouvé amusant, c'est quand Haaland a répondu aux questions après le match, qu'on lui a demandé de manière un petit peu en forme de clin d'œil, est-ce que la performance d'Mbappé l'avait un peu motivé. Il a dit oui, effectivement, je remercie Kylian parce que ça m'a motivé pour marquer, pour faire un bon match. Et ça m'amène à ma question.
Ah, la question.
Parce que le mardi dernier, on avait les deux plus grands joueurs du monde, qui est pas l'un en face de l'autre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Messi qui jouait donc face au Paris Saint-Germain, Ronaldo qui jouait avec la Juve face à Porto, ils ont perdu 2-1. Mais ça devrait,
pas grand-chose à dire, je pense, sur ce match. Tant la Juve était catastrophique, quoi.
Et pourtant, ça devrait, avec le but marqué à l'extérieur, ça devrait passer. Mais donc, ces deux joueurs ont joué, pas forcément très bien. Et le même soir, un soir, le mardi puis le mercredi, deux joueurs ont éclaboussé l'Europe de leur classe, Mbappé et Haaland. Alors ma question, c'est est-ce que Mbappé et Haaland sont les nouveaux Messi, Ronaldo ? Est-ce que quelqu'un...
je pense que enfin, ce genre de rivalité, c'est... il va falloir se lever de bonne heure pour trouver un égal à ces deux joueurs-là. Parce que ce soit dans le travail ou bien dans le talent pur, ces deux-là ont élevé les standards au niveau le plus maximum. Techniquement, je pense que ni Mbappé ni Haaland ne matchent les deux, mais à des années-lumière. Et puis
là, je te trouve un peu dur, mais bon.
Pour Mbappé, je pense qu'on s'est déjà écharpé sur ce sujet, mais moi je trouve que Mbappé n'est pas un bon joueur techniquement. Il est rapide, il sait quoi faire dans les situations où il se trouve, mais technique pure quand
il a pas l'habileté sans doute.
Voilà, ouais, dans un petit espace, Mbappé il pousse le ballon, il donne un coup d'épaule et puis il va au but. Il n'arrive pas à faire une virgule ou un passement de jambe, et quand il fait des passements de jambe, t'as l'impression que c'est juste pour faire
le passement de jambe. Ouais.
Et t'as l'impression que même quand il marche dans la rue, il fait des passements de jambe tant il en fait sur le terrain. Mais je pense que évidemment on s'emballe parce que c'est deux jeunes gars de 20 ans qui 22 maintenant pour Mbappé, mais ces deux jeunes gars qui sont en train de passer toutes les barres de record beaucoup plus tôt que les deux autres. Mais pour moi, sur le terrain, au même âge, on voyait beaucoup plus de la part de Cristiano et Messi qu'on voit de Haaland et Mbappé, en termes de talent pur en tout cas.
C'est un débat qu'il y a toujours eu. Est-ce que la génération de maintenant, on va comparer... Alors Mbappé, on va essayer de comparer avec Ronaldo, on va comparer avec Zidane, on compare avec Platini avec Cruyff avec Pelé, et chaque fois c'est incomparable.
Et continue.
mais... Paul Van Niem,
le football évolue tellement...
Oui,
c'est vrai.
Mais... Enfin,
en même temps, il ne faut pas bouder son plaisir, il faut arrêter de vouloir ressembler à qui que ce soit, il faut être soi-même, et en définitive, chacun dans, j'ai envie de dire, dans sa catégorie...
Moi, ça ne m'a pas réussi, j'ai été moi-même, je n'ai pas fait carrière. J'aurais été Mbappé.
D'un autre côté, je veux dire, ils ont tous les deux un talent juste incroyable, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler, mais le talent inné, par définition, bien, tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, personnellement, je suis assez... ébloui par Haaland, plus que par Mbappé, parce que ce gars n'a pas le physique de l'emploi à la base. Il est lourdeau, il a l'air... Enfin, c'est un viking. Hein, voilà. Mais il a une aisance technique tout à fait improbable par rapport à son gabarit, je trouve.
Il est rapide aussi.
Il est rapide, il est toujours à la bonne place. C'est un gars qui ne lâche rien. C'est pour ça que, comparé... Alors, Haaland, de ce point de vue-là, ressemblera plus à Cristiano parce qu'il court beaucoup plus, parce qu'un Messi, on dit toujours qu'il joue dans son fauteuil. Et les deux... se dépense pendant un match. Donc déjà Messi est en retrait, alors que moi Messi est mon favori entre Ronaldo et Messi. Pour moi, il y a pas photo. Je trouve que Messi a tout et que Messi joue, et que voilà, je n'aime pas le côté théâtral de Ronaldo. Je n'aime pas son côté entre guillemets tricheur, toujours pleurer des fautes machin. Messi, il a été taclé au moins autant que Ronaldo, et il a pas passé le tiers du quart du temps que l'autre est passé à se rouler par terre.
Ouais, mais ça sert rien à côté de Neymar, monsieur.
Non, ça, c'est vrai. Neymar, ça c'est hors catégorie.
Non, je pense qu'il y a peut-être une comparaison pour Haaland qui est peut-être un peu plus juste, mais je sens que j'attends Blaise sur ma gauche qui va sûrement réagir. Est-ce qu'il ressemble pas un peu à Zlatan, Haaland?
Il n'y arrive pas. Zlatan n'arrive pas à la cheville de Haaland.
Il a marqué un but exceptionnel à Haaland
ouais,
ce
justement,
week-end.
Voilà, j'entendais Didier louer la technique de Haaland, et c'est vrai que cette retournée là, c'est incroyable. Et je la value beaucoup plus que le retourné de Ibrahimovic dans un match amical qui comptait pour des prunes. Là, enfin, c'est dans un derby. Enfin, je veux dire.
Mais ils ont pas le même âge non plus. Hein. Il a quasiment le double. Hein.
Oui, de toute façon, Zlatan, il est exceptionnel de par sa longévité, son parcours. Après, il a ses
nombreux défauts. Et...
Il a de son nombreux défauts. Il y en a un qu'on pourra pas enlever. C'est statistiquement ses buts importants dans les matchs à élimination directe. On dit souvent qu'il est.
Bah, il y en a pas.
Il y en a pas.
Il y en a pas. Enfin, je veux dire, dans tous les matchs importants, que ce soit avec Paris, que ce soit avec l'Inter, que ce soit avec le Barça. C'était le seul joueur qui est passé à côté. Et je pense que toi, tu en parleras le plus facilement possible. On a un peu dévié sur Zlatan, mais quand il prend ce carton rouge contre Chelsea, alors que Paris est qualifié, même si à la fin, il se qualifie quand même. Enfin, juste, c'est... Alors que le mec, il est là avant le match, il bombe le torse, il est là, ouais, c'est moi qui vais qualifier mon équipe, c'est moi qui suis le meilleur de l'équipe. Alors, 30 minutes après, il prend un carton rouge, il laisse des joueurs qui ont 25 ans moins, tout seul sur le terrain, alors que c'est une de leurs premières grosses affiches européennes. Enfin... Moi, je suis désolé, mais ce joueur-là, c'est vraiment le type joueur que j'aime pas, et j'étais très content que Lukaku le remette à sa place hier. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, c'est dit. Voilà.
Moi, ce qui me fascine aussi avec Haaland, c'est que, à la différence d'Mbappé, parce qu'Mbappé, c'est un TGV, et voilà, et comme je disais, si tu sais pas courir plus vite que lui, t'as de toute façon un problème. Mais Haaland, tout le monde sait qu'il va être à la bonne place, tout le monde sait que c'est le buteur, que c'est le gars qu'il faut surveiller impérativement, eh bien, il arrive toujours à planter son but, voire ses buts, dans chaque match qu'il dispute, quelle que soit la compétition. Et voilà, c'est juste incroyable. Donc il arrive à faire son trou dans toutes les dans tous les cas de figure.
Et genre. pour reprendre, enfin reparler de ce duel là, j'ai un peu l'impression que Cristiano a ouvert la voie à un certain type de joueurs qui sont en fait des joueurs qui vont beaucoup travailler et qui sont pas forcément les plus talentueux de leur génération, mais tant ils travaillent, au final ils arrivent à s'en sortir. Et ça se voit que Mbappé et Haaland sont des joueurs qui travaillent énormément. Ça se voit à leur musculature, alors qu'ils sont, ils sont même pas encore finis. Enfin, c'est, et ça se voit à leur progression constante, en fait, depuis, depuis 5 ans, ces deux-là, alors que, bon, bah, ils avaient 15 et 17 il y a 5 ans, ils font que augmenter leur niveau, leurs statistiques. Et donc, je pense que ce genre de joueur, je veux pas parler trop vite, mais j'ai l'impression que dans les années 90 et avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas beaucoup, soit on était défenseur et donc on travaillait, soit on était attaquant et on avait le talent pur et on faisait ce que, on faisait ce qu'on était là pour faire, c'est-à-dire faire des dribbles et faire des buts.
Moi, je pense,
vas-y.
Je pense que la différence entre les deux, entre Haaland et Mbappé, Mbappé, il y avait sa précocité, Haaland là aussi, mais Haaland est déjà arrivé à un niveau, technique et de performance. Mbappé, il est resté avec les mêmes qualités qu'il avait dans ses premières saisons à Monaco, puis les premières saisons à Paris.
Ouais, mais c'est facile pour Haaland aussi qu'il aille se farcir un match à Lorient ou à Dijon, comme Mbappé. On va voir ce qu'il vaut là-bas.
Vois, si on doit comparer
Arminia Bielefeld contre Vlap, c'est pas vrai.
Maintenant qu'Mbappé, c'est plus le petit genou, parce qu'il est déjà installé depuis un moment, on doit le comparer à, je sais pas moi, un Karim Benzema.
Ouais.
Je voudrais rebondir sur ce que Blaise vient de dire. On va faire un tout petit retour en championnat de Belgique. Tu parlais de Vlap à Bielefeld.
Oui.
On parle de tous les transferts et tous les flops anderlechtois qui font les beaux jours des clubs où ils sont prêtés aujourd'hui. Donc, ça revient à mettre de l'eau à mon moulin. Vincent, pose-toi les bonnes questions.
Juste pour finir avec Haaland et ou Haaland comme on dit et Mbappé, des chiffres statistiques folles. Mbappé, premier joueur depuis 24 ans, et Andrei Shevchenko, seul joueur d'ailleurs à marquer un triplé au Nou Camp. Et surtout la statistique la plus folle, c'est Haaland, 18 buts en 13 matchs de Ligue des Champions.
C'est impressionnant.
Il est évidemment inutile de préciser qu'il est largement en avance sur les standards de tous les autres.
Je crois que Cristiano va pas bien dormir.
Non, mais je crois qu'à la même, à la, au même âge, il avait marqué un but. Cristiano seulement en Ligue des Champions, ça l'a pas empêché d'être, de rattraper le temps perdu, mais en tout cas, Haaland.
Il en reste 135 à marquer, quand même.
Voilà. Demain, on poursuit la Ligue des Champions avec des matchs intéressants, notamment Atlético Madrid-Chelsea. Atlético Madrid-Chelsea, au moment du tirage au sort, ça pouvait prêter pas à sourire, mais
ça semblait disproportionné.
Ça semblait très disproportionné. Et là, les courbes, on va pas exagérer, mais on va pas dire qu'elles s'inversent complètement, qu'elles sont dans le sens inverse. Mais ça reste beaucoup plus intéressant, ça devient beaucoup plus intéressant qu'au moment du tirage au sort. L'Atlético n'a gagné que 2 fois au cours des 5 derniers matchs et semble marquer le point, pas au point qu'on on prédisait le titre acquis déjà pour l'Atlético qui avait des matchs de retard, ça semble plus si évident. Et de l'autre côté, Chelsea, qui depuis que Thomas Tuchel a pris l'équipe en main, reste sur 8 matchs sans défaite. Ça va être un match intéressant. Est-ce qu'il y a un petit pronostic de quelqu'un?
Non, moi, on ne mouille pas.
C'est une année où les pronostics, c'est vraiment...
C'est où encore?
C'est Atlético.
Ok, ouais.
Ouais. Moi, je dirais l'Atlético parce que de mon point de vue, l'Atlético a toujours l'arme fatale, c'est-à-dire Diego Simeone.
Diego Simeone, oui.
Moi, je suis fan.
Ouais. Et, non, et les dents de Luis Suarez.
Oui, bien sûr.
Et les dents de Luis Suarez.
Les dents.
il est mordu de foot.
Oui.
Lui, il ne faut pas lui prêter l'oreille.
Joli. Un autre match demain, c'est Lazio Bayern.
Bon, là, je pense que.
Tu penses que là, c'est entendu?
Mais c'est dit.
Ouais, écoute, on peut se poser la question.
Si la machine s'enraye pas.
Voilà, le Bayern était sur 7 victoires de rang, dont une victoire en Coupe du Monde des clubs. Est-ce que ce petit voyage là-bas les a pas un peu fatigués? Depuis, ils ont fait un nul, une défaite. Ils commencent toujours mal leur match, hein, puisqu'on se souvient qu'ils avaient fait une série assez incroyable de matchs où ils avaient toujours concédé l'ouverture du score.
Ouais, est-ce que s'il est... Vlap le sait, il a participé à ses stats.
Mais c'est même pas la fatigue, je pense que c'est le fait que on leur fait jouer pour des raisons financières un mini tournoi dont ils se foutent éperdument avec un voyage long. Et...
Mais ça change rien, ils ont quand même perdu. Ils ont un point sur six en championnat.
Oui. Bon, après, la Lazio de son côté avance bien. Ils ont 4 victoires en 5 matchs en Serie A.
Mais Bruges a failli les battre.
Et Bruges a failli les battre à quelques centimètres sur cette frappe de Kettelaar.
Sur
la latte. Autre match, Atalanta-Real. Le Real, à l'inverse de l'Atlético qui patine un peu, le Real est sur 4 victoires de suite. Benzema en revanche sera forfait, tout comme bien sûr Eden Hazard. Donc pour se rendre à l'Atalanta, qui a perdu, on le rappelle, Papu Gomez qui a été transféré à Séville.
Oui, mais ça joue, tu sais, à l'Atalanta. Ça joue.
Non, le Real n'est pas, pas à l'abri.
Il y a Thibaut,
heureusement qu'il y a Thibaut.
Moi, je suis certes admiratif de tout ce qu'a fait Atalanta, mais je j'y crois pas une seule seconde parce que c'est typiquement le genre d'équipe que le Real adore jouer et adore battre. C'est le genre d'équipe qui vont jouer. Ils vont se prendre un contre sur une sortie de balle sur le côté. Il va y avoir un centre, il va y avoir un but. La technique Zizou. Et j'y crois pas une seule seconde, mais après, je peux me tromper. Hein.
J'espère que tu te trompes. Comme ça, au moins, ça restaure un peu de suspense.
Et le dernier match de cette semaine en Ligue des Champions, c'est Mönchengladbach contre City. Là non plus, Gladbach n'est pas au top, contrairement à City qui est au top du top.
Et Kevin est de retour
en plus. Bon, on regardera ça d'un œil distrait.
Est-ce que vous vous rappelez, parce que c'est vrai qu'on vit à l'heure foot, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a à peine 3 mois de ça, je pense, 3 mois, septembre ou octobre, eh bien, City était 9e du championnat, à 8 points des leaders.
Et on commençait à dire que la méthode Guardiola marchait pas,
qu'il avait fait son temps, blablabla.
En tout cas, nous, on se pose des vraies questions. Hein. On se remoque.
Mais ouais, non, ça va être encore...
Quelle année, à part ça, c'est... Dans tous les championnats, c'est à part Bruges.
À part Bruges. Eh bien, justement, tu es le roi des transitions, puisque après la Ligue des Champions, on passe à la Ligue Europa. La Ligue Europa, on jouait les 16e de finale aller la semaine dernière, on joue les 16e retour cette semaine, et on commence par le FC Bruges, qui jouait à Kiev, où on a vu, comme tu nous l'as dit, hein, Didier, qu'il était possible de jouer au football
sans
quand il... Non, mais
quand il y a moins 20.
Quand il y a moins 20 degrés, en tout cas à Kiev, on peut.
À
Saint-Gilles aussi, mais à Charleroi on peut pas. Il y a eu un partout à l'aller avec un beau but du Dynamo Kiev et une belle égalisation
À la Brugeoise. Par contre, je voudrais souligner quand même, et ça va peut-être pas faire plaisir, ça va remuer le couteau dans la plaie de pas mal d'équipes en Belgique, mais l'esprit, la niaque, l'envie. Bruges est arrivé 24 heures avant ou à peine 24 heures avant. Ils se rendent compte, pour raison Covid, qu'ils doivent se séparer de Van Aken, qu'ils doivent se séparer de Mitrovic, qu'ils ne peuvent pas emmener avec eux
Clément,
le coach, qu'ils ne peuvent pas emmener Noah Lang, qui est malade, mais on sait que depuis, c'est le Covid aussi. Et Mats Ritz, qui est... Donc, ils arrivent sans colonne vertébrale... Quand même, on peut dire ce qu'on veut, l'Europa League, c'est quand même le 16e. Et il tombe contre le Dynamo Kiev, qui est aussi un rescapé de la Champions League, la phase de poule. Donc, c'est pas non plus un oiseau pour le chat. Et ils vont quand même chercher un résultat au caractère. Et ils auraient même pu, avec un peu d'audace, pour reprendre le terme Anderlechtois du jour, peut-être revendiquer plus. Mais bon, on va pas leur en vouloir d'avoir voulu préserver un résultat qui, ma foi, est quand même assez sympa.
Il y a que ça qu'on cherche en déplacement en Coupe d'Europe, c'est le résultat.
Mais parce que Kiev, et tu te souviens, on l'avait évoqué, j'ai dit, tiens, c'est le bon moment pour prendre une équipe russe. Ouais. Parce qu'il y a eu l'interruption, effectivement.
Ukrainienne,
bien sûr. Et ils ont été cuits physiquement, les Ukrainiens, après 75 minutes, il n'y avait plus personne.
Moi aussi, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment souligner, outre leur domination sur le territoire, c'est vraiment, depuis quelques années, leurs différents parcours européens où ils s'améliorent. Et ça fait super longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe belge qui donnait une aussi belle image du football belge.
Il y avait la Gantoise et Genk.
Ouais, mais qui qui était là un an, puis qui disparaissait. Alors que là, Bruges, c'est vraiment une... Bon, c'est certes, constant. L'année dernière, voilà, mais oui, ils ont battu le Real. Enfin, oui. Non, ils ont fait le match nul au Real. Ouais. Enfin, c'est...
Mais cette année, c'est la vérité. À part, je dirais, un petit peu de balbutiement en début de championnat, dans les 3-4 premières journées. Depuis, c'est un diesel, hein, ça roule. Ça... Et c'est pas non plus gagné d'avance, je veux dire. Ils ont été menés au score, il a fallu aller au caractère quelques fois. Ils ont la réussite qui va avec, on est d'accord. Hein. Mekele qui donne le ouais. point du match nul. Il a jamais marqué autant de buts de toute sa carrière que depuis 3 matchs. Et c'est des buts qui valent des points.
Ouais, c'est
Donc ça vaut. C'est une équipe qui tourne, c'est la chance du
champ. Il progresse, peut-être. Je trouve qu'il progresse.
Tout à fait.
C'est ça, il progresse.
Ouais. Est-ce qu'on sait, donc ça va se jouer jeudi. Ils seront de retour toute la colonie des Covidés.
J'en sais rien du tout, encore. J'en ai pas la moindre idée. S'il faut 10 jours, je sais pas, ils doivent ramener 2 tests négatifs. Il faut aussi qu'ils puissent s'entraîner.
Ouais.
Et s'ils ont été malades réellement, pas gravement, mais réellement, ben, physiquement, ils s'en ressentiront, puisque fièvre, etc. Et donc, il faut voir s'ils seront, quoi qu'il arrive.
Sans doute, en tout cas, si Bruges fait preuve de sérieux, du sérieux nécessaire jeudi, il devrait passer, on leur souhaite. 1-0.
Pour Bruges contre Rochelle.
Et voilà.
Eh oui. Eh ben donc, et je voudrais rebondir sur ce que... Enfin, répondre à une question que tu as posée il y a 15 jours, Henri, ou il y a 3 semaines, je ne sais plus. Tu as pu t'apercevoir Dirard, but... tout à fait. Quand tu vois le match que ce gars a produit jeudi...
J'y ai pensé quand même.
Eh bien, voilà.
Oui, c'était le victoire.
C'était ça, bonne pioche. Le gars, il vient, il joue son match, il a 34 balais, il est plus monté sur une pelouse officiellement, un match officiel depuis près d'un an, je pense. Le gars, il joue 70 minutes, il mouille le maillot, sans éclat, sans rien, il fait le taf. Ouais. Et il s'en va de devoir accompli. Moi, je pense que s'il garde cette mentalité-là, eh bien, c'est extrêmement bonne pioche.
Ouais, c'est génial. Et c'est pour ça qu'on a été le chercher. C'est pour être là quand on a besoin de lui, quoi.
Et il a accepté ce rôle-là.
Et il a accepté, ouais.
Ça, parce que ça a été négocié avant. Parce que il y a beaucoup de clubs qui font venir en promettant Monts et Merveilles. Et après, les mecs, ils se retrouvent banquette, donc frustrés. Et donc, voilà. Et tandis que là, le mec, il sait d'avance que ça va être banquette, sauf quand ce ne sera pas banquette.
Et qu'on aura besoin de lui, ouais.
Oui,
ce soir, c'est Ignace, le bon Ignace.
Van der Beem
qui a ouvert le score sur une passe de Chong,
le chevelu.
Le chevelu.
Une nouvelle recrue contre un produit du club. Et il faut rendre hommage aussi à Clément qui a pu lancer un De Ketelaar chez vous, à Paris, il y a 2 ans maintenant, je pense. Et Van der Beem qui l'a fait monter aussi au Dynamo Kiev et qui a failli même marquer un but. Il avait eu plus de. Il n'a pas osé, en fait, parce qu'il a fait 2-3 petites. Je ne sais pas si tu as vu Blaise. Il est parti dans un slalom à l'entrée du rectangle. Je pense que les Ukrainiens ne savent même pas qui c'était. Et puis, voilà, donc bonne pioche aussi, il lance des jeunes qui sont affûtés, et c'est pas, on va voir.
L'autre club belge qui jouait la semaine passée, c'est l'Antwerp, qui jouait à domicile, qui a perdu 3-4 face au Glasgow Rangers, un match assez fou, très fou même. La déception et
ça va être compliqué. Déjà, on le disait que ça allait être compliqué pour le premier match, mais là, pour la qualif, ça va être...
Ouais,
ça va être très.
C'est dommage parce que ça jouait pas mal.
Ouais, ça danse. C'était un beau match. Parce que bon, si Didier joue, on verra.
Ouais, il était absent, hein, je pense.
Ouais, il était absent.
Suspendu.
Suspendu. S'il revient, on ne sait jamais.
Ça peut le faire.
À noter que les buteurs israéliens se sont mis en valeur lors de ces matchs aller. Notez que Moanes Dabour, l'avant-centre d'Offenheim, a marqué un doublé. Il en est à 6 buts, ce qui le place assez haut dans le classement des buteurs. Mais il a manqué un pénalty alors que son club menait 1-3 et qu'ils ont été rattrapés par Molde 3-3. Il pourrait peut-être le regretter. Un autre double buteur, c'est Eran Zahavi qui a marqué 2 fois lors de la défaite 4-2 face à l'Olympiakos. Mais le PSV peut sans doute retourner la situation au Philipsstadion, si ça s'appelle toujours comme ça. Ça doit toujours s'appeler comme ça, puisque c'est le club qui est sponsorisé. On n'a pas fait du naming de stade, mais du naming de club. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Et enfin, le dernier buteur, Lior Refaelov, avait marqué donc en tant qu'attaquant israélien contre les Rangers. Ouais, 3-4. C'est
marqué,
décevant.
Effet marqué.
C'est décevant, mais bon,
C'est vrai, quand tu marques 3 buts et que tu pars avec une défaite, c'est un peu malheureux. En Coupe d'Europe, c'est waouh.
Je pense que c'est ce qui leur a coûté aussi un point en championnat.
Peut-être, ouais.
Parce que perdre comme ça, déjà que c'est en Coupe d'Europe, on sait que ça coûte des points, mais en plus, moralement, à 3-4, c'est dur.
Ouais, il y a des équipes qui gagnent.
C'est pareil que 0-1 en définitive.
Il y a des équipes qui gagnent en milieu de semaine et qui perdent le dimanche, d'autres qui perdent et qui font match nul. Mais ben c'est... Le Maccabi Tel Aviv a lui perdu 0-2 face au Shakhtar Donetsk. Dommage, ils avaient résisté jusqu'à la fin. Enfin non, ils avaient pris un but rapidement, mais ils étaient sur un 1-0 et ils ont pris un but dans les arrêts de jeu qui sans doute hypothèquent leur chance.
Est-ce qu'on en parle ou pas, Sam, avant de se quitter?
Mais oui.
De Romelu.
Romelu. Parlons de Romelu, évidemment.
Et de Zlatan.
On va parler de Romelu. Qui a marqué, qui a fait marquer. Ça sent bon pour l'Inter. Ça commence à...
C'est un beau championnat cette année.
Parce que
ça a été un petit peu décevant. On jouait pour la deuxième place pendant des années. La Juve étant tellement au-dessus du lot. Et puis là, cette année, il y a aussi un très très beau championnat par là-bas.
Bah, il marque des buts aussi dans des matchs importants.
Oui.
Il fait marquer.
Moi, je voudrais vraiment tirer mon chapeau à Romelu parce que quand il arrive à l'Inter, c'est la seule demande de Conte, c'est je veux Lukaku. Il avait déjà essayé de le faire venir à Chelsea. Il l'a eu à l'Inter. L'année dernière, il les amène en finale de l'Europa League quasi tout seul. Cette année, il les amène au titre quasi tout seul. Enfin,
Noël Lautaro,
ils sont champions. Hein.
Oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est lui qui met tous les buts quasi. Tu vois, Lautaro, il est beaucoup plus dans la construction du jeu que Romelu. Romelu, il est là pour finir les actions et il le fait très bien.
Ouais,
et
il joue aussi comme pivot, hein.
Oui. Et vraiment, enfin, je trouve que ce gars-là a essuyé les critiques pendant toute sa carrière de tous les médias possibles et imaginables et tous les observateurs possibles et imaginables, et il est en train de prouver à tout le monde que
il répond de la meilleure manière qu'il soit.
Exactement, sur le terrain, et il répond aux grandes bouches comme Zlatan qui
tu ne l'aimes pas vraiment, Zlatan.
Je déteste ce joueur.
J'ai cru comprendre.
Ouais, c'est vrai, non, il fait une saison
il est dans le même match, il y a Sanamakers qui s'est pas s'empêcher de prendre une carte jaune par match, quoi.
Ouais. Ah oui.
Bah, il vient d'Anderlecht en même temps.
Alexis, reprends-toi.
Non, mais il doit apprendre. Hein.
Ouais.
Ça pourrait lui coûter sa place à terme.
Je pense qu'il est en train de la perdre.
Ouais, je pense qu'il est en train de la perdre aussi.
C'était même étonnant qu'il soit titulaire parce qu'il avait vraiment mal joué ces derniers temps. Bon, il est encore dans la course. On va juste parler d'une seconde de Première Ligue et de cette défaite, juste pour souligner l'effondrement dans le derby de la Mercy, l'effondrement de Liverpool. Notez que c'est la première fois depuis 1923 que Liverpool perd 4 fois de suite à domicile. C'est la première victoire d'Everton à Anfield au troisième millénaire. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en 99. Et c'était la première défaite de Liverpool contre Everton depuis 23 matchs. C'est assez dur.
Quand t'étais très très haut comme ils ont été...
Ouais, on peut que redescendre, mais là, ça fait mal. Il nous reste 3 minutes, je voudrais juste qu'on aborde ça. Il y a cette proposition qui a été faite par Israël d'accueillir des matchs, d'accueillir l'Euro 2020 et des matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa d'ici à la fin de saison si la situation sanitaire reste préoccupante en Europe. Pourquoi est-ce qu'il se propose, enfin, et pourquoi ce serait une idée ou une solution? Je vous rappelle que cette année, l'Euro doit se jouer dans 12 villes hôtes, qu'il y a des protocoles sanitaires qui sont différents selon les pays, et que toutes les équipes vont être obligées, de par la structure du tableau, de se déplacer dans un autre pays. Donc ça rend les choses extrêmement compliquées. Et de l'autre côté, côté positif pour Israël, ils maîtrisent plutôt bien la vaccination et le Covid. Ils viennent d'organiser un grand chelem de judo, donc une compétition internationale importante. Et il y aurait des stades qui seraient pleins. Oui, Henri.
C'est de la com, je pense, parce que t'as Bibi qui vient d'annoncer qu'il faut un passeport pour pouvoir rentrer en Israël. Et tous les pays n'auront pas.
Oui, ou alors à moins qu'il...
Je crains que ça ne soit que de la com.
Je pense aussi que ça risque d'être compliqué, mais on en reparlera. Mais en tout cas, l'idée fait son chemin dans la tête de l'UEFA. En tout cas, ils réfléchissent, et je pense qu'en avril, d'ici un mois, on devrait apprendre qu'il y aura un changement de structure. C'est pas possible, ça me paraît compliqué.
La formule à 12 pays, je pense.
12 pays, c'était peut-être une riche idée. Merci Michel Platini d'y avoir pensé, mais c'était pas la bonne année, en tout cas. Parce que là, ça veut dire que... Je crois qu'à part les équipes qui jouent à domicile, enfin qui ont un des matchs à domicile, toutes les autres doivent se déplacer au moins les deux fois.
J'ai vu qu'en Angleterre, ils vont sûrement rouvrir le public au stade le 17 mai. Ouais. Et on sait qu'ils organisaient les deux demi et la finale de l'Euro, donc peut-être que ça va se passer là-bas aussi.
Là-bas, c'est vrai.
Écoutez, c'était une très bonne émission. On était ravis de passer 7h avec vous, 7h30.
Un dernier petit mot, un petit clin d'œil à Blaise. Et tu as des nouvelles de José?
Je pense qu'il s'est perdu dans le classement.
José, il a encore perdu, notre ami José. Si tu nous écoutes, José, on sait que tu nous écoutes pas, mais c'est pas grave. On
lui, te...